Vous écoutez Les Petits Caractères, le balado d'options consommateurs qui vise à poser un regard critique sur les enjeux de consommation qui vous préoccupent. Ici Marianne Speer, j'ai l'honneur d'être votre animatrice. Je vous souhaite la bienvenue à ce nouvel épisode et je souhaite également la bienvenue à Carlos Castiblanco, économiste et analyste chez Options Consommateurs, ainsi que Joanne Leblanc, conseillère budgétaire chez Options Consommateurs. Bonjour à vous deux.
Bonjour, Marianne.
Aujourd'hui, on parle d'accumulation pour la retraite et comment les différents paliers de gouvernement peuvent nous aider avec certaines rentes. C'est bien ça?
Oui, c'est bien ça.
Oui, tout à
cool.
fait.
C'est bien qu'on soit trois pour en parler parce que c'est un gros sujet.
Effectivement.
Super. Donc, on débute avec Joanne?
Oui, bien, en fait, moi, ce que je voulais faire, c'est de sensibiliser les gens au fait que quand on se fie seulement aux prestations gouvernementales qui sont possibles d'obtenir, c'est pas énorme. Alors, il faut prévoir, autant que faire se peut, d'amasser des sous pour pouvoir rendre notre moment de retraite un peu plus confortable ou à un niveau qui nous correspond un peu plus selon ce qu'on a connu dans notre vie. Si vous commencez à regarder les montants qu'il faut placer de côté, ça peut être un peu décourageant parce que c'est souvent des sommes qui, a priori, ont l'air astronomiques. Mm-hmm. Ça se fait un pas à la fois. C'est pour ça qu'il faut, autant que faire se peut, commencer le plus tôt possible. Puis, j'ajouterais quand même que si ça n'a pas été possible, mieux vaut tard que jamais. Grâce à son budget, on est capable de planifier, on est capable de pouvoir se dégager certaines liquidités, puis de commencer son épargne.
Mm-hmm. Puis j'aimerais ajouter aussi que c'est pas parce que par exemple, quelqu'un prend sa retraite à 65 ans que c'est la... À 65 ans, c'est terminé. On a encore, tu sais, quand même un 20 ans que si on a environ 85 ans, si on désire, si on veut continuer d'épargner, tu sais, c'est encore possible à ce moment-là. Là.
Absolument, tout à fait. Puis, un des trucs de pro qu'on peut utiliser dans son budget, c'est carrément d'intégrer l'épargne comme si c'était une dépense. Comme ça, les choses vont se faire de manière un peu plus automatique. Puis, on s'habitue avec l'idée qu'il faut faire de l'espace à l'épargne à l'intérieur de son budget. Juste pour vous donner une petite idée, là, si je prends seulement la Régie des rentes du Québec, avec la pension de sécurité de vieillesse qui est offerte par le gouvernement fédéral, la moyenne des prestations qui sont remises, en couplant les deux, ça fait un revenu annuel de 18 380,52. Ça, c'est la moyenne. C'est pas ce qu'il y a de plus élevé. Le maximum qui est possible de recevoir en palliant ces deux programmes-là, c'est 30 726,84. Là-dessus, il faut aussi comprendre que c'est pas tout le monde qui a accès à ce maximum-là. Je tiens à souligner que pour les femmes, c'est seulement 0,9% des femmes qui arrivent à atteindre ce maximum-là de prestations gouvernementales.
Okay.
Et 4,8% des hommes qui vont y parvenir. Donc, c'est pour ça que c'est important de penser à soi, de prendre soin de soi pour ces moments où il sera peut-être un peu plus difficile de pouvoir gagner notre vie comme on le désirait. Il y a possibilité pour les gens qui sont les plus démunis de pouvoir bénéficier de ce qu'on appelle de la sécurité de revenus garantie, mais là encore, il y a seulement 39 % des Québécois qui vont pouvoir se qualifier pour pouvoir bonifier les prestations des divers gouvernements.
OK. Donc, le supplément de revenus garanti. Excellente introduction. Merci beaucoup, Joanne. Carlos, tu poursuivais?
Oui. Là, on va regarder un petit peu plus la structure du système de pension du Canada, de la décortiquer un petit peu plus. On va le diviser en trois piliers. Le premier pilier qu'on connaît sous le nom de la sécurité de la vieillesse, c'est vraiment un système de retraite unique et universel offert par le gouvernement fédéral. Le deuxième pilier, c'est un régime de retraite à contribution obligatoire. C'est les lois offertes chez nous par le régime des rentes du Québec. Le système québécois, il y a un système similaire au Canada qui s'appelle le régime des pensions du Canada. Celui-là, il est financé surtout par les contributions des travailleuses, travailleurs et les employeurs aussi. Et finalement, nous avons le troisième pilier. Ça, ce serait plutôt les régimes volontaires de retraite ou les régimes parrainés par l'employeur.
OK. Donc, pilier 3, ce serait les cotisations individuelles et les régimes collectifs de notre employeur.
Exactement. Okay.
Fonds de pension, REER collectif, etc.
Exactement. Toute cette panoplie de produits de placement, c'est bien ça. Donc, on va toucher le premier pilier, ça va être la sécurité vieillesse. Ça, c'est une pension sous une forme de versement mensuel. Celui-là ne dépend pas des antécédents d'emploi. C'est pour ça qu'on l'appelle universel. La plupart des gens vont être en mesure de toucher à une certaine mesure cette pension. Donc, quelles sont les conditions d'admissibilité? Si vous résidez au Canada, vous devez avoir 65 ans et plus. Vous devez être citoyen canadien ou résident permanent autorisé. Et vous avez dû résider au Canada pendant au moins 10 ans depuis l'âge de 18 ans. Si vous ne résidez pas au Canada, vous êtes aussi éligible. Le seul changement, c'est que vous avez dû résider au Canada pendant au moins 20 ans depuis l'âge de 18 ans. Et il y a d'autres conditions, surtout pour les gens qui travaillent à l'extérieur du Canada pour des employeurs canadiens, banques, l'armée canadienne. Ils ont leur propre série de critères. Donc, le gouvernement fédéral, il sait que peut-être cette pension-là ne va pas être suffisante pour tout le monde. Mm-hmm. Jean l'a déjà mentionné. Nous avons aussi le supplément du revenu garanti qui est offert aux prestataires à faible revenu qui font partie du système de la sécurité de la vieillesse. Ce revenu-là n'est pas imposable.
OK. Donc, étant donné que la pension de sécurité de la vieillesse, c'est quelque chose d'universel, bien là, le supplément de revenu garanti ajoute quelque chose d'un petit peu plus personnalisé, disons-le, pour... OK. Excellent.
Exactement. Surtout pour les gens qui ont moins de revenus, les gens qui ont un peu plus de misère, ça, c'est vraiment pour cette population.
Excellent.
Parfait. Là, on va passer au deuxième pilier. On va parler plutôt du régime des rentes du Québec. Donc, comme on avait déjà dit, c'est un système qui est financé par les cotisations obligatoires des employeurs, des employés et les travailleurs autonomes aussi doivent y contribuer. Mm-hmm. Qui contribue alors? C'est toute personne qui a 18 ans et plus et qui a un revenu d'emploi de plus de 3 500 $ pendant une année civile. Donc, la plupart de la population qui travaille.
Mm. Et puis, la plupart des gens le voient sur leur talon de paye ou même les travailleurs autonomes se rendent très compte à la fin de l'année.
Exactement.
Donc, c'est quand même un peu
plus connu. T'es travailleur autonome, toi?
Oui. Exactement.
Exactement. Fait que tout le monde, on contribue à ce système, évidemment, puis on est très au courant. Le taux de cotisation du régime de base est de 10,8%. Et ça, c'est partagé en partie égale entre travailleurs et employeurs. Et le taux de cotisation du régime supplémentaire, parce que le RRQ a aussi un système supplémentaire.
Okay.
Il est de 2% partagé entre l'employeur et l'employé.
OK. Puis les travailleurs autonomes, on paye les deux cotisations.
Exactement.
On paye les deux parts, c'est ça. Je comprends que c'est plus difficile à la fin de l'année.
Oui, puis on pourrait faire un balado complet là-dessus, mais en même temps, on a aussi l'option de mettre beaucoup de dépenses. Fait que pour l'instant, je chialerai pas. Partie 3, Joanne.
Une fois qu'on sait tout ça, puis si on veut essayer de voir mais combien moi je peux ou je dois ou je devrais essayer d'estimer combien je dois mettre de côté, il y a quand même des outils qui sont disponibles sur certaines plateformes, dont une où on peut faire des simulations sur le site de Retraite Québec. Ça ne remplace pas les experts comme un planificateur financier ou un conseiller financier qui pourrait vous donner des indications supplémentaires beaucoup plus en fonction de votre situation personnelle.
Toi, dans ta pratique, est-ce que ça t'arrive de faire un bout de chemin avec eux puis de peut-être référer vers un planif?
C'est une bonne question. Comme conseillère budgétaire, moi, je peux aider les gens à faire le budget pour essayer de se, tu sais, qui est une personne qui a l'objectif de vouloir épargner plus, je peux l'aider à faire son budget, à regarder avec elle les solutions possibles pour pouvoir mettre un petit peu plus d'argent de côté.
OK.
Bon, fait que ça, c'est le bout de chemin que je peux faire. Mm-hmm. Par contre, pour savoir où et comment placer son argent, parce que c'est pas juste de la mettre de côté, il faut la faire bonifier.
Ouais.
Là, on est dans les placements de produits financiers, ça prend des experts pour pouvoir vous accompagner. Il y a possibilité aussi de vous informer par vous-même, de développer votre littératie financière. D'ailleurs, même si vous allez rencontrer un spécialiste, moi, je vous recommanderais, si c'est la première fois que vous y allez, allez vous familiariser un petit peu avec les termes qui sont utilisés. C'est quoi un REER? C'est quoi un CELI? Comme ça, vos questions ne seront pas les mêmes. Vous allez pouvoir aller beaucoup plus loin dans les questions que vous allez vouloir poser. Ça va déjà vous obliger à réfléchir un petit peu sur qu'est-ce que vous voulez. Puis le planificateur ou le conseiller va être en mesure de pouvoir mieux vous armer pour vous conseiller là, par rapport à ce que vous avez besoin.
Est-ce que tu as des sites en particulier à nous conseiller pour justement développer notre littératie financière?
Bien, moi, j'aime bien, il y a le site de l'Autorité des marchés financiers. Je pense que c'est important aussi d'aller sur des sites avec d'informations qui sont neutres, qui ne sont pas là pour vous vendre des produits, puis où vous avez la certitude que vous allez recevoir des conseils de qualité ou de l'information de qualité. Donc, il y a le site de l'Autorité des marchés financiers qui offre beaucoup d'informations pour pouvoir vous guider dans vos choix. Il y a aussi l'Agence de la consommation en matière financière du Canada. Plus facile de dire ACFC.
ACFC, oui. Ben, j'ai une mini anecdote là-dessus. J'ai collaboré plusieurs fois avec la CFC. Puis juste un peu avant de faire ma première collaboration avec eux, j'avais fait une collaboration avec un organisme qui s'appelle ACSF. Et là, je devais faire des vidéos pour la CFC et dans toutes mes vidéos, je dis ACSF.
Oh non.
J'avais comme 8 vidéos, j'ai dû toutes les refaire. Je disais ACSF, ACSF tout le long. Ils ont été vraiment conciliants, la CFC, je tiens à le dire. Ils ont essayé de modifier le vidéo pour mettre comme une voix par-dessus la mienne puis que ça fasse le bon acronyme. Mais non, il n'y avait rien à faire. Je les ai refait. Mais oui, vraiment des très bonnes sources d'informations.
Mais moi, je trouve qu'il y a énormément d'informations financières qui sont disponibles. Puis vous pouvez vraiment vous familiariser avec il y a de l'information sur les budgets, mais il y a aussi beaucoup d'informations sur les divers termes que vous aurez à mieux connaître dans une perspective d'investissement, de planification, de croissance, de bonifier votre épargne.
Excellent. Et Carlos, il y a des changements à venir d'ici le 1er janvier sur la RRQ, c'est bien ça?
Oui, c'est bien ça. Donc, on est dans un contexte de pénurie. On est aussi dans un contexte où les gens vivent plus longtemps, où les gens veulent aussi parfois travailler plus longtemps.
Mm-hmm.
Donc, le RRQ va faire 3 changements qui vont être cruciaux pour avoir un système plus flexible. Le premier, c'est de permettre aux travailleurs de 65 ans ou plus qui reçoivent déjà leur rente de retraite d'arrêter de cotiser au RRQ.
Oh, intéressant.
Ouais. Pourquoi est-ce que ça serait peut-être important, ça? Je dirais, certaines personnes, par préférence personnelle, peut-être par des questions de santé, veulent peut-être recevoir l'argent, avoir de l'argent à court terme immédiatement à la place de contribuer. Donc, ça va leur donner la flexibilité de recevoir ce surplus-là sur leur paye et d'arrêter de contribuer à 65 ans.
Mais oui, parce que j'imagine que ça pouvait peut-être être un peu dissuasif aussi pour certaines personnes de retourner sur le marché du travail quand ils se disaient « je vais comme me remettre à payer une rente que je reçois déjà ». J'ai pas fait de calcul, mais il y a peut-être des situations même que ça en valait… ça valait plus la peine de ne pas retourner sur le marché du travail quand on regardait les chiffres.
Il y en a-tu?
Oui. Ah, bon, vous en avez vu.
Et pas seulement ça touche un peu au deuxième point, qui est protéger le montant de la rente après 65 ans grâce à un nouveau calcul. Mais qu'est-ce que ça veut dire un peu, ça? C'est les gens, lorsqu'ils travaillent, la rente, pour déterminer cette rente-là, le RRQ va compter les ans de travail entre 18 et 65 ans, ce que la personne travaille.
Okay.
Donc, si quelqu'un veut peut-être continuer à travailler, mais moins, mi-temps, juste faire quelques travaux ici puis par là, après 65 ans, ça va descendre sa moyenne. Donc, la rente va aussi être affectée de façon négative.
Ah.
Avec le nouveau calcul, la personne ne doit plus se préoccuper par rapport à ça. Ça va être protégé son calcul. Elle va pouvoir continuer à travailler, peut-être à un rythme moins élevé, ce qui est super bon pour les personnes âgées. Et ils vont quand même recevoir l'argent qu'ils ont bien travaillé pendant depuis 18 ans jusqu'à 65 ans.
Mais quelle bonne nouvelle, surtout avec les emplois qui sont de plus en plus, tu sais, des fois à distance, puis qu'ils demandent moins de se déplacer,
exactement.
Donc on peut travailler plus longtemps.
Plus de possibilités.
Ben,
et le dernier changement, c'est un changement très facile à expliquer. Le RRQ permet maintenant de repousser à 72 ans l'âge maximal où les personnes commencent à recevoir la rente de retraite.
Okay.
Donc, la personne, pourquoi quelqu'un ferait ça? C'est le même concept que des gens qui ne prennent plus la retraite à 65, mais plutôt à 70. Ça permet d'avoir une rente plus élevée. On dit qu'elle pourrait obtenir plus ou moins 2 600 $ par année de plus en repoussant en 2 ans l'âge de retraite.
C'est intéressant.
Donc, si on a les liquidités disponibles, ben, ça peut valoir la peine de repousser. Là.
Exactement. Okay. Puis, comme on dit, il faut toujours parler à un planificateur financier. Peut-être des gens ont des projets qui ont besoin de plus d'argent. Donc, c'est une option qui est très intéressant pour quelqu'un qui est peut-être à des gros projets lorsqu'ils vont devoir, veulent quitter leur emploi puis veulent faire des rénovations chez eux ou quelque chose comme ça.
Mmh. Ben, je pense qu'on s'est rendu à parler du décaissement. C'est pas avec vous que ça se passe, par contre. Parfait. Merci beaucoup, Joanne. Merci, Carlos. À la prochaine. On poursuit l'épisode sur la préparation à la retraite, mais cette fois-ci, on parle de décaissement avec Louis-Alexandre Lacoste, directeur général de Éduc Épargne. Louis-Alexandre, bonjour.
Bonjour, Marianne. Ça fait plaisir d'être avec toi.
Bien, c'est pareil. Merci beaucoup d'avoir accepté. C'est la première fois qu'on vous a sur le podcast. Donc, en termes clairs, c'est quoi le décaissement des avoirs à la retraite et pourquoi est-ce que c'est si important?
Bien, en fait, le décaissement des avoirs à la retraite, c'est retirer ce que vous avez accumulé pendant votre vie active pour obtenir un revenu de retraite qui vous permettra de réaliser vos rêves, vos projets de vie. Donc, c'est de continuer à avoir une vie stimulante, une retraite enrichissante. C'est très important parce qu'il y a beaucoup de gens qui réalisent peut-être pas, mais ils vont peut-être passer plus de temps à la retraite qu'au travail. Je ne sais pas la majorité des gens, mais donc c'est une période très importante et il faut s'assurer de ne pas manquer de sous.
Ouais, les gens vivent de plus en plus vieux, il y a des avancées au niveau de la santé, des soins. Donc,
exact. Bref, le décaissement, c'est ce que vous allez faire avec vos REER, vos CELI, votre régime de retraite, quand vous allez demander vos rentes gouvernementales et dans quel ordre vous allez retirer tout ça pour que ça soit le plus bénéfique sur une période de... Ben, de long terme, donc, et c'est ça.
Ben, on l'a vu un peu avec la première partie de cet épisode-là. Ouais. On le voyait déjà que quand on demande nos rentes plus tard, ben, il y a des bonifications. Ouais. Si on les demande plus tôt, il y a des réductions. Fait que ça serait voilà. Quoi le meilleur moment pour réfléchir au décaissement?
Ben, en fait, il n'y a pas de règle très précise à ce niveau-là. Mais idéalement, c'est quelques années avant la retraite. Et c'est quand les projets de retraite se précisent. Donc, quand vous commencez à avoir une idée de l'âge à laquelle vous allez prendre votre retraite, vos objectifs de retraite, est-ce que vous voulez arrêter de travailler de façon définitive ou vous voulez travailler à temps partiel et tout ça. Ou s'il y a des événements de la vie qui peuvent influencer votre plan de décaissement, la vente d'une propriété, un déménagement, dans un logement ou dans une résidence pour personnes âgées. Si malheureusement vous perdez votre conjoint ou votre conjointe, si vous tombez malade, etc. Donc, c'est important de réviser régulièrement son plan de décaissement en fonction des aléas de la vie.
Parce que c'est ça. Si on le fait à 25, 26 ans, ça se peut très bien que, tu sais, on ne sait pas ça va être quoi notre état de santé là, à 60, 65. Même si on dit, je veux prendre vraiment ma retraite, moi, à 70, mais ça se peut qu'à 55, ça l'ait un peu changé. Puis que là, les projections de décaissement, tu sais, on les a un peu faites pour rien. Fait que c'est vraiment quand que nos projets de retraite se concrétisent. Je comprends bien. Ouais. Excellent. Puis, quelle serait la meilleure stratégie à adopter?
Bien, là, ma réponse, ça va être très plate, c'est qu'il n'y en a pas de meilleure stratégie. Si on prend un échantillon, par exemple, de 100 personnes, bien, on risque de se retrouver avec 100 stratégies différentes parce que chaque stratégie va être propre à la situation de chaque personne. Ça va dépendre, par exemple, des actifs accumulés, du régime de retraite, si les gens en ont un, est-ce qu'il est à prestation ou à cotisation déterminée. L'état de santé de la personne, mais surtout aussi des objectifs de retraite. C'est pas tout le monde qui veut faire la grande vie puis faire 8 voyages par année. Donc ça, oui, ça implique d'autres styles de décision que si votre but dans la vie, là, c'est de
monter le Kilimanjaro, OK,
ou tu sais, cultiver votre jardin puis vous occuper de votre... jardiner, tout ça, faire du ski de fond. Donc, selon vos choix de vie, ben les décisions vont être différentes. Une stratégie qui peut être très rentable, on en a parlé tantôt, c'est si les gens sont en bonne santé, c'est le report des rentes gouvernementales. Pour le régime de rente du Québec, la rente sera de 36 % moins élevée si vous la demandez à 60 ans versus 65 ans. En revanche, si vous la reportez après 65 ans, le régime sera bonifié de 8,4 % par année jusqu'à 70 ans et même jusqu'à 72 ans à partir du 1er janvier 2024. Okay. Pour la pension de la vieillesse, on est éligible à partir de 65 ans, mm-hmm. mais en attendant à 70 ans pour la demander, c'est 36 % de plus que vous obtiendrez pour le restant de vos jours. Donc, c'est un pensez-y bien.
Définitivement. Puis ces rentes-là, est-ce qu'ils sont indexés au coût de la vie?
Oui, les rentes publiques sont indexées au coût de la vie. Au coût de la vie, alors le report, bon, c'est une bonne façon de se protéger contre l'inflation. Mmh. Aussi, bon, comme je disais tantôt, on a toute une idée de ce qu'on rêve faire à la retraite, mais c'est ça. Il va falloir adapter nos projets ou nos stratégies de décaissement en fonction de ce qu'on va faire.
Mmh. Est-ce que ça vous... Ben, tu sais, à Éduc'Épargne, vous parlez au grand public, principalement. Ouais. Est-ce que vous avez eu des situations où des gens ont dû, tu sais, revoir leur plan de retraite une fois qu'ils ont regardé plus précisément leur projection, leur plan de décaissement?
Bien, chez Éduc'Épargne, on ne donne pas de conseils personnalisés, mais c'est des choses qu'on entend souvent.
Ouais.
Que oui, les gens, dépendamment de ce qui va se passer dans leur vie, bien, un plan de retraite, ça ne peut pas juste être écrit puis que ça gèle là sur une table. Puis faut le revoir, faut repenser dépendamment de ce qui va arriver dans la vie.
Mmh. Puis j'imagine que selon le décaissement qu'on fait, si on le bonifie, ben en fait, si on l'optimise, ben on peut avoir une retraite qui se rapproche plus de nos objectifs. Puis à l'inverse, si on ne regarde pas bien notre stratégie de décaissement, on va peut-être devoir couper sur certains rêves qu'on avait, certains objectifs à la retraite.
Absolument, parce que les gens réalisent.
Puis là, on ne parle pas d'accumulation, on ne parle pas d'épargne, on parle de décaissement. Là. Ouais. Mm.
Puis ce que les gens réalisent peut-être pas assez, c'est que selon les décisions qui vont être prises lors du décaissement, ça peut être des dizaines, voire même des centaines de milliers de dollars qu'on jette sur la table. Puis ça, c'est notre argent. Là. C'est pas mm-hmm. l'argent qu'on n'aura jamais.
Ben oui.
Donc, c'est important d'avoir une bonne réflexion.
Oui, puis tu sais, de prendre en compte pas le moment où est-ce qu'on va décéder, mais l'espérance de vie. Parce qu'en effet, si on fait pas des bonnes projections, ben on va peut-être en avoir beaucoup trop qui va rester ou vraiment pas assez.
On peut avoir des petites surprises, effectivement. Oui.
Puis ça me fait penser même au testament. Tu sais, si on décède vraiment avant nos projections de décès, ben cet argent-là, si jamais on a personne à qui ça s'en va... Ben, on a certainement quelqu'un. La loi prévoit des choses, mais de faire son testament, très bonne idée aussi.
Puis il faut se dire aussi, juste en terminant sur cette question-là, il faut se dire aussi qu'à la retraite, vous ne serez pas différent de qui vous êtes actuellement. T'sais. Si tu n'as jamais pensé jouer au golf, ben, tu n'auras pas une...
Tout à coup, une illumination.
C'est ça, une illumination. Okay. Puis les voyages, si ça ne fait pas partie de tes passions, ben tu ne découvriras pas à 65 ans que là, tu veux faire le tour du monde. Fait que la retraite, c'est juste une autre étape. Puis on est qui on est, puis on va continuer à faire ce qu'on fait. Donc, puis chaque personne encore là a ses désirs, ses besoins, ses aspirations différentes. Mm-hmm. Donc, il faut en tenir conséquence. Donc, la meilleure stratégie, si on revient à ta question, c'est de se faire un plan puis de le faire évoluer selon les aléas de la vie, selon les besoins qui changent. Donc, parce que pour le reste, comme je dis, il y a autant de stratégies qui sont bonnes pour...
Que d'individus.
Une stratégie qui est bonne pour toi, elle ne sera pas bonne pour moi, vice-versa. Donc, il faut consulter.
Excellent. Puis est-ce qu'il y a des pièges à éviter?
Ouh, il y en a. Il y en a plusieurs. C'est pas nécessairement un piège, mais ce qu'on voit beaucoup là, quand on parle de retraite ou de décaissement, c'est que les gens font l'adéquation de dire « je prends ma retraite et je demande mes rentes ». Puis c'est pas nécessairement la meilleure solution. Tu peux très bien vouloir prendre ta retraite à 60 ans parce que, par exemple, je sais pas moi, t'as un métier très physique, t'as mal au dos, t'as mal aux genoux. Mais c'est pas parce que tu prends ta retraite à 60 ans que tu es obligé de demander tes rentes à 60 ans. Il y a d'autres façons que tu peux compenser avec des REER, avec des CELI, pour réussir justement à retarder tes rentes le plus tard possible. Là, on parle de 72 ans bientôt, mais mm-hmm. bon, déjà, quand si tu peux reporter jusqu'à 65 ans, c'est déjà pas mal plus payant que si tu te dépêches de les demander à 60 ans.
Ça me fait penser à une petite question technique, là, petite parenthèse. Est-ce que c'est bien compliqué de faire la demande pour recevoir ces rentes-là? Est-ce qu'il faut se prendre un an d'avance?
Non, c'est pas compliqué. En fait, ce qui va arriver, c'est que Retraite Québec va vous envoyer une lettre un peu avant vos 60 ans pour vous dire que vous pouvez demander vos rentes. Il y a beaucoup de gens, par contre, qui pensent qu'en recevant la lettre, c'est comme une obligation.
C'est ce piège-là dans lequel il ne faut pas tomber.
Ben, en fait, il faut réfléchir. Il y a des gens, quelqu'un qui a une santé fragile, il sera peut-être tenté de lui demander.
Mais c'est juste de ne pas tomber dans le piège de penser que c'est obligatoire. C'est vraiment juste un comme « Hey, salut, t'es éligible,
c'est possible, admissible. » Mais c'est pas obligatoire. Donc, faut penser à ça.
Parfait.
Faut tenir compte aussi de la fiscalité. Par exemple, si on retire des REER, on va être imposé. Tandis que si on retire des CELI, ben il n'y aura pas d'impôt là-dessus.
Fait que peut-être penser à une petite stratégie de fractionnement de revenus.
Aussi, pour des couples peut-être plus aisés ou ceux qui ont les gens qui ont une grande différence d'âge ou qui ont pas les mêmes accumulations à la retraite, le fractionnement de revenus, ça peut être intéressant. Puis pour les gens à plus faible revenu, il y a le supplément de revenu garanti aussi qui peut être intéressant. Faut juste bien jouer ses cartes parce que au-delà d'un revenu annuel de 20 800 $, le supplément de revenu garanti tombe à zéro.
OK. C'est bon à savoir. On en avait parlé juste en première partie. Fait que c'est en haut de 20 800, on n'a pas accès au supplément de revenu garanti.
Exact.
Puis ça, ces chiffres-là peuvent changer à chaque année un peu.
Oui. OK. Puis l'autre piège, je dirais, je vais parler du risque de longévité. Parce que les gens sous-estiment beaucoup, souvent, leur espérance de vie. Parce que ce qui est véhiculé, c'est qu'un homme, la moyenne pour un homme, c'est à peu près 82 ans. Pour une femme, c'est à peu près 84 ans. Mais ça, c'est l'espérance de vie à la naissance. Quand les gens atteignent l'âge de 60, 65 ans, faut comprendre que une personne sur quatre va se rendre jusqu'à 95, 96 ans.
Ah oui!
Donc, faut pas... le piège, c'est de liquider son argent rapidement en pensant que tout va être fini à 83 ans, mettons.
Oui!
Puis de manquer de l'argent à la fin de ses jours. Donc,
okay.
Ça, c'est important. Et en fait, on veut pas survivre à notre argent. Je pense que c'est sûr que personne veut ça. Puis je reviens plus on reporte les rentes tard, plus ça nous fait un revenu garanti, indexé, jusqu'à la fin de nos jours, là, qu'on vive 100, 105, 110 ans, là, cet argent-là, on va pouvoir toujours compter dessus.
Excellent. Puis je crois que vous avez lancé une campagne sur le décaissement il y a quelques semaines à Éduc'Épargne. Pouvez-vous nous en parler?
Oui, c'est nouveau. En fait, comme je disais, ça fait pas si longtemps que ça qu'on parle du décaissement. Là. On a parlé beaucoup de planification de la retraite. Ça fait peut-être 5 ans que le décaissement est plus sous le radar. Puis il y a 2 ans, on a fait un webinaire avec différents experts et on est allé chercher 7500 participants. Donc, ils ont vu le webinaire au complet, ce qui a suscité plus de 2000 questions. Et là, on a dit « Ouais, OK ». Mais là, c'est devenu une évidence. OK, là, il y a quelque chose qui se passe. Les gens ont des questions, des préoccupations. On devrait s'y mettre. Donc, depuis un an, même plus qu'un an maintenant, on a travaillé sur un projet, une campagne publicitaire pour faire connaître c'est quoi le décaissement, c'est quoi quelques stratégies. Donc, on a travaillé avec plusieurs partenaires là-dessus. On a produit 5 capsules vidéo qui présentent 5 différents profils. Donc, on va parler du supplément de revenu garanti, on va parler du fractionnement de revenus. On fait quoi avec nos fonds de travailleurs? Si on a des fonds, du fonds de solidarité ou de fonds d'action. Et on a créé une section sur notre site qui s'appelle Votre retraite, qui va donner toutes sortes de conseils. Encore là, c'est des conseils généraux parce que on donne pas de conseils personnalisés, mais quand même, ça. Nous, ce qu'on veut, c'est aider les gens à se poser des bonnes questions.
Oui, je trouve que ça a tout à fait sa place parce qu'il y a beaucoup de gens qui craignent d'aller voir un spécialiste parce qu'ils sentent qu'ils sont pas assez équipés pour être devant cette personne-là, qui ont peur comme de se faire avoir ou juste que des fois, sont même un peu gênés de leur situation financière. Puis là, quand il y a par exemple une conseillère budgétaire comme Joanne qui entre en jeu, un organisme comme Éduc'Épargne, ça permet aux gens de gagner de la confiance puis après, peut-être d'aller voir un spécialiste.
Ouais.
Là.
Ouais,
mais il y a un travail à faire du côté du consommateur aussi.
Le chemin va des deux côtés.
Ouais.
Quand on va s'asseoir devant quelqu'un, juste de savoir quelles questions poser. Déjà, Il y a un gros pas qui est fait, puis le conseiller ou le planificateur va être en mesure de vous donner des meilleurs conseils ou des meilleures bonnes pratiques à mettre en place selon votre situation encore là, qui est unique à tout le monde.
En terminant, est-ce que vous auriez des derniers conseils pour les gens qui nous écoutent?
Ben oui, absolument. On vient d'en parler. Moi, je dirais de choisir avec soin le professionnel à qui on va s'adresser, qui pourra vous conseiller sur vos placements et sur votre plan de décaissement. Il faut s'assurer que ce professionnel-là est inscrit à l'Autorité des marchés financiers, très important.
C'est hyper facile d'aller vérifier. En plus, c'est le registre Autorité des marchés financiers.
Exactement.
Ouais.
Puis, on parlait du beau-frère tantôt.
Oui. Dans l'entracte, là, vous n'avez pas entendu, mais on a eu des anecdotes qu'on s'est racontées. Là.
Sûrement des beaux-frères qui sont super compétents, mais bon, des fois...
qui ont plus de bonnes intentions que des...
C'est ça. Fait que c'est des compétences. C'est pas de la malversation, c'est pas ça, mais... donc, d'aller voir un professionnel certifié, ça peut être une très bonne idée. Ouais. Un plan de décaissement, je dis souvent que ça se fait pas tout seul sur le coin d'une table. C'est un projet à long terme qui mérite d'être fait sérieusement. Puis en étant accompagné, bien, c'est plus sécurisant. Mm. Puis je vais finir par une phrase qu'une de mes mentors me répétait souvent, Jocelyne Houle-Lesage. La planification de la retraite et le décaissement, c'est pas magique, c'est mathématique. Donc, il n'y a pas de solution miracle, c'est des chiffres, puis c'est ça qui va donner les résultats au bout du compte.
Très sage parole. Merci énormément, Louis-Alexandre. C'est un plaisir de vous recevoir au Petit Caractère.
Merci, Marianne.
Merci à la maison. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à visiter le site de Options Consommateurs et tiens, pourquoi pas celui d'Éduc Épargne également. Je vous souhaite une belle journée. À la prochaine.